et nous demandons cette grâce et nous demandons que tu nous rendes capables de comprendre ta parole et ce que ça veut dire pour nous et comment on pourra la vivre. Enseigne-nous, Jésus, comme tu as enseigné tes premiers disciples. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous continuons dans cette série basée sur Corinthiens, les lois, les rites sacrés et les rois. Est-ce que j'ai droit à mes droits? As-tu déjà pensé, avez-vous déjà pensé à vos droits dans votre famille, dans votre église, au travail? Avez-vous lutté pour vos droits? Peut-être vos droits ont été violés à l'école, dans votre milieu au Canada. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 9 et penser pourquoi Paul abandonne-t-il ses droits? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Nous sommes tellement habitués à nous soutenir, à nous souvenir de nos droits et les défendre. Dans les universités, nous sommes encouragés à être des activistes pour nos propres droits et les autres, et les droits des autres. Quelques slogans des droits de l'homme sont les suivants: dignité, liberté et justice pour tous. Quel que soit notre travail, quelle que soit notre taille, nous méritons tous d'être bien traités. Levez-vous, défendez vos droits. Si vous êtes assez grand pour vous souvenir de Bob Marley. Nous sommes informés par des déclarations universelles des droits de l'homme. Les droits de l'homme universels sont les droits et libertés fondamentaux que tous les peuples possèdent en vertu d'être humains, indépendamment de leur race, sexe, nationalité, ethnicité, langue, religion et de tout autre statut. Il y a quelques-uns ici. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. En plus de tout cela, nous vivons à une époque de ce qu'on appelle l'individualisme expressif. L'individualisme expressif repose sur l'idée que votre moi intérieur et vos sentiments uniques sont votre véritable identité et votre épanouissement vient de la découverte et de l'expression authentique de ce moi. Si vous adoptez l'individualisme expressif, votre droit à l'expression personnelle, à l'autonomie et à la découverte de soi est beaucoup plus important que votre engagement envers votre famille, votre communauté ou une tradition religieuse. Votre droit d'être fidèle à vous-même passe en premier. Vous avez le droit d'être accepté, affirmé et validé tel que vous vous définissez. Et vous avez le droit de faire taire le point de vue opposé. À cause de notre contexte, nous pouvons demander à Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire? Pourquoi le dis-tu? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Avant d'aller dans le texte, nous pouvons penser à quelque chose. Comment un Corinthien lirait-il ces versets au 1er siècle? Probablement, un Corinthien verrait probablement Paul refuser d'embrasser une relation patron-client avec l'église de Corinthe. Et au 1er siècle, dans une ville gréco-romaine comme Corinthe, les patrons riches offraient de la nourriture, de l'argent, une protection, une aide juridique et d'autres services à leurs clients en échange de leur loyauté, de fois de leur soutien politique et de leur service militaire. C'était une relation mutuellement bénéfique. Dans notre monde, l'exemple serait les donateurs riches offrent un soutien financier aux candidats politiques pendant leur campagne. Si et quand le candidat politique est élu, le donateur revient lui réclamer quelques faveurs. Les Corinthiens entendraient Paul dire « Église de Corinthe, vous n'êtes pas mon patron, je ne suis pas votre client. » Et ils demanderaient « Pourquoi pas ?» Au chapitre 8, on l'a vu la dernière fois, Paul abordait la conversation sur les aliments offerts aux idoles. Ceux qui ont pour une connaissance supérieure, ceux qui ont une connaissance supérieure croient avoir le droit de manger de la viande offerte aux idoles, même si cela pourrait être une pierre d'achoppement pour les personnes ayant une conscience plus faible. Les personnes ayant une conscience plus faible sont celles qui ont une identité personnelle fragile et un sentiment d'appartenance insécure. À cause de cela, c'est leur habilité de discerner le bien et le bon est de fois confuse. Au chapitre 9, Paul se présente comme un exemple. Il ne défend pas tant son apostolat, mais plutôt se propose lui-même comme exemple. Il pose 17 questions rhétoriques pour faire comprendre un point, le pourquoi de sa renonciation à tous ses droits. Et si on comprend ce point aujourd'hui, je serai excité. Je suis déjà excité, mais si vous avez ce point, je serai vraiment excité. Et Paul a beaucoup de droits. Il commence avec ses droits apostoliques. Il s'attend à la réponse, bien sûr, à chaque question. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Bien sûr. N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Bien sûr. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Bien sûr. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Alors, avec ces questions, Paul attire l'attention sur ce que les Corinthiens savent déjà. Premièrement, il a une identité spirituelle. Il est libre en Christ. Il a un appel spirituel. Il est apôtre. Il a été envoyé par Dieu pour proclamer une bonne nouvelle de Jésus-Christ et poser les fondements théologiques de l'Église. Expérience spirituelle. Il a vu Jésus-Christ ressuscité. C'est l'un des prérequis pour l'apostolat. Il a les fruits spirituels, l'Église de Corinthe. Il n'est pas celui qui a fondé toutes les églises, mais il est définitivement le fondateur de l'Église de Corinthe. Nous pouvons voir dans l'histoire d'Actes 18. L'existence de l'Église de Corinthe remplie de personnes transformées par l'Esprit de l'Esprit des dieux scelle ou garantit l'authenticité de son apostolat. Mais nous pourrions dire, nous connaissons notre identité en Christ, nous avons un appel sur nos vies, nous avons expérimenté la présence de Christ ressuscité dans nos vies, nous pouvons vous montrer le fruit de notre ministère, alors j'ai les droits. Par conséquent, nous avons le droit d'être respecté, d'être entendu, de voter, d'être justifié dans ma déception, d'être en colère et ainsi de suite. Est-ce que j'ai tous ces droits? Paul n'a pas fini. Il poursuit en parlant de ses droits humains fondamentaux. Il dit, voici ma défense contre ceux qui m'examinent. Voici mon apologétique pour ceux qui veulent me cross-examiner. Dans le verset 4-6, Paul s'attend à la réponse, bien sûr que oui. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Bien sûr que oui. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme croyante comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Bien sûr que oui. D'autres apôtres comme Céphas, le frère de Jésus comme Jacques. Comme Jacques, amener leurs femmes croyantes avec eux. Et certains ont suggéré que ces couples, ces gens qui amenaient leurs femmes, ces couples étaient comme des équipes de ministère dans ce contexte. Les Romains croyants auraient la liberté de faire des disciples et d'enseigner aux femmes de la maison. Verset 6, est-ce que seuls Barnabas et moi n'avons-nous pas le droit de cesser de travailler pour gagner notre vie? Paul et Barnabas ont été envoyés par l'église d'Antioche lors du premier voyage missionnaire de Paul. Lors de ces premiers voyages, ils ne sont pas allés à Corinthe. Peut-être que Barnabas avait visité Corinthe et était connu de l'église. Quel qu'il en soit, la question est celle-ci. Sommes-nous les seuls à devoir faire un travail manuel pour subvenir à nos besoins? N'avons-nous pas le droit de recevoir un soutien financier pour ne pas être distrait de la prédication de l'Évangile? Et la réponse serait bien sûr oui. Ensuite, au verset 7, Paul tire trois exemples quotidiens de la vie professionnelle que tout le monde à Corinthe connaissait. Verset 7. Qui donc sert comme soldat à ses propres frais? Qui plante un vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait de troupeau? Les soldats, les soldats et les agriculteurs et les bergers étaient communs dans la région. Ils se nourrissaient pas. Toutes ces personnes doivent être compensées. Et c'est quoi l'implication? En tant que soldat dans l'armée de Dieu, en tant que travailleur dans la vigne de Dieu, en tant que soignant des brebis de Dieu, Paul a le droit de recevoir un soutien financier de l'Église, de recevoir une aide pour les nécessités de base de survivre. Quels sont les droits humains fondamentaux? Encore, voici l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne sans discrimination aucune a droit à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu pour tous les autres moyens de protection sociale. Alors, vous amenez cela à votre employeur, vous dites « Mon pasteur a dit ceci. » Qu'en est-il à propos de mon salaire? À ce stade, les Corinthiens disent probablement « Très bien, Paul, assez. » Vous avez des droits apostoliques, des droits humains fondamentaux, et vous avez fait valoir votre point. Mais Paul n'en finit pas. Dans les versets 8 à 14, Paul passe des droits humains fondamentaux aux droits bibliques. Que disent les Écritures sur les droits de Paul? Verset 8, « Est-ce qu'en vertu des droits purement humains que j'ai dit cela, la loi ne dit-elle pas aussi? La parole écrite des dieux est l'autorité ultime pour le peuple de Dieu dans les questions de la foi et de la pratique. La parole de Dieu révèle son caractère. Elle dévoile son échelle des valeurs. Qu'est-ce qu'il est important pour Dieu? Que dit-il? Que dit-elle? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. » C'est une citation de Deutéronome 25:4. Et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Le bœuf foulait les grains en tirant un objet lourd, souvent une sorte de roue appelée un traîneau à dépiquer. Il était attaché à un poteau au milieu. Les bœufs marchaient en cercle, écrasant le grain avec leurs sabots. Cela séparait le grain de la tige et la balle. Alors, la parole de Dieu exprime une préoccupation pour le bien-être de bœufs. Alors, Paul ajoute qu'il devrait être autorisé à manger pendant qu'il travaille. Et ensuite, est-ce pour les bœufs que Dieu se préoccupe? N'est-ce pas entièrement pour nous qu'il parle? Oui, c'est pour nous qu'il a été écrit, parce que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit le fouler avec l'espérance d'y avoir part. Quand on revient à Deutéronomie 24-25, Dieu révèle ses préoccupations pour les pauvres, les travailleurs, la veuve, l'étranger. Il est même concerné à propos de l'animal, de la dignité, l'animal de travail. Ces chapitres affirment la dignité et le bien-être de tous les êtres humains et même les bœufs. Alors Dieu se soucie de la façon dont nous traitons. Si un bœuf peut profiter du grain en travaillant, à plus forte raison un apôtre, comme Paul peut recevoir des avantages de son travail missionnaire. Alors Paul ajoute au verset 11, « Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, et c'est excessif que nous moissonnions une part de vos biens matériels, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt nous ?» Basé sur ce qu'il a dit, d'autres apôtres, ministres, avaient traversé Corinthe et reçu un soutien matériel des Corinthiens pendant leur service, des gens comme Apollos et Céphas. Certes, si Paul était le premier à s'aimer les grains de l'Évangile à Corinthe, il serait le premier en ligne pour recevoir le soutien financier. Il ajoute au verset 13, Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent un service sacré mangent de ce qui est offert dans le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? En lisant dans l'Écriture, vous voyez les prêtres accomplissant les rites sacrés au temple de Jérusalem tirent leur nourriture des offrandes sacrificielles. Et puis nous arrivons au point culminant de son argument, le verset 14. De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur, a commandé qu'il en soit ainsi. Il n'a pas fait une suggestion, il a commandé. Ou, lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, Luc 10, il dit ceci, « Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Ce principe est répété dans Marc 6 et Matthieu 10. Et Paul le répète dans 1 Timothée 5, 17 et 18. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Paul est en train de citer Deutéronome 25, 4, et il quote Jésus dans Luc 17. Et pouvait entendre les Corinthiens gémir. Assez, peut-être, nous gémissons. Nous sommes convaincus, peut-être que vous pouvez vous identifier aux Corinthiens. Vous avez des membres de votre famille ou des amis qui défendent leur droit de vue jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vous disiez finalement. Personne n'est en train de rire, je pense que c'est vrai que... Et Paul arrive au point qu'il veut faire comprendre au verset 12. Il veut dire pourquoi il renonce à ses droits. Écoutons la parole. Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voici la motivation de Paul ici. Même s'il a le droit à tous les niveaux et dans tous les sens imaginables, il renoncera à ses droits parce qu'il sert un but supérieur. Quel est ce but supérieur? De ne pas entraver en aucune façon l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Il ne veut en aucune manière empêcher les autres de venir à la foi de Jésus. Voyez-vous, Paul prêchait dans des centres urbains où les orateurs... Et c'était commun à l'époque où les orateurs itinérants étaient courants. Certains utilisaient leur talent oratoire pour rechercher la renommée et la fortune. Certains empocheraient des grosses sommes auprès de leurs disciples en se déplaçant de ville en ville. Paul se sépare délibérément de ces orateurs. Il ne veut pas que quiconque pense qu'il est là pour l'argent. Aujourd'hui, nous pourrions dire, je ne veux pas être identifié, être un prédicateur de la prospérité ou un guérisseur pour la foi qui altère l'évangile et manipule les donateurs potentiels afin d'augmenter le gain financier. Voyez-vous, la décision de Paul est ancrée en Jésus lui-même. Il a été ravi par l'exemple de Jésus-Christ qui se vide lui-même, qui se donne lui-même, qui se sacrifie lui-même. Et cela gouverne sa vie. Paul dit dans Philippiens, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, c'est un gain. » Jésus s'est donné. Comment est-ce que moi, comme apôtre, je ne peux pas me sacrifier et me donner pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi les disciples de Jésus aiment-ils, servent-ils, partagent-ils la bonne nouvelle? Parce que Jésus aime profondément, sert de tout son cœur et partage généreusement. C'est ça ce qu'il a fait et c'est ça son caractère. Et Paul, quand il conclut son argument, la décision de Paul est ancrée. Il va dire, Soyez imitateurs, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Quelle déclaration! Pouvons-nous dire cela à nos membres de famille ou les gens avec qui nous travaillons, les frères et sœurs dans notre église? Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Ce n'est pas que nous vivons la vie chrétienne parfaitement, d'une façon parfaite, mais si on Paul continue à parler de ces exemples au verset 15 à 18. Où la relation patron-client est arrière-plan. Il dit, mais je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas cela afin qu'il en soit fait ainsi à mon égard. Car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ces sujets de gloire. Paul dit que son sujet de gloire serait vidé de son sens s'il commençait à accomplir sa prédication comme une obligation envers l'église de Corinthe. Il ne sera le client d'aucune église. Et au verset 16, il dit, « Car si j'ai prêché l'évangile, je n'ai pas là sujet de gloire, puisque la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Il dit, « Je suis sur une sacrée compulsion. Je suis restreint par... Je suis pressé. » Il dit, « Je prêche... » L'évangile sous la contrainte sacrée est une sainte obligation. Ailleurs, Paul dit que l'amour de Christ le presse, la présence de l'Esprit Christ en lui l'inspire, le fortifie. Il ne peut pas le retenir. Quel sujet de gloire Paul a-t-il? Paul s'est glorifié dans le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est glorifié en Jésus et et lui crucifié qui a donné sa vie pour notre salut. Il s'est glorifié dans une vie de sacrifice pour soi, pour le salut du plus grand nombre possible. Il s'est glorifié dans ce que Dieu avait fait pour la gloire. Verset 17, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit dans l'évangile. Si je l'ai fait, c'est là mon plein gré, je recevrai un paiement. Cependant, si je l'ai fait, passe là simplement de mon plein gré, mais suis contraint par l'appel de Dieu sur ma vie, alors je ne suis qu'un intendant. Le mot intendant ici... est utilisé pour la gestion d'une maison. Paul l'utilise métaphoriquement pour dire que Dieu lui a confié une responsabilité à laquelle il doit être fidèle, c'est-à-dire proclamer l'Évangile. 1 Corinthiens 4, 1, 2, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des intendants du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul est sous le commandement de son patron, son seul maître. Il doit être obéissant à son Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en bénéficie matériellement ou non n'a aucune importance. Sa récompense ne vient pas des hommes, sa récompense vient de son maître. Il prêche gratuitement un évangile gratuit qui libère les gens. Que dit-il aux Corinthiens à travers son exemple? Comment peuvent-ils ne pas renoncer à leur droit de manger du steak lorsque l'avancement de l'évangile est en jeu? Savez-vous, si Jésus a tout donné, si moi, comme apôtre, je suis prêt à renoncer à tous mes droits pour l'avancement de l'Évangile, alors vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez renoncer aussi à votre steak si l'avancement de l'Évangile est en danger. Oui, si vous ne participez pas au festin de la salle du banquet, si vous ne participez pas au festin de la salle du banquet du temple, vous risquez une baisse sociale. Vos alliés politiques, partenaires commerciaux, amis et voisins peuvent s'éloigner de vous. Il peut y avoir des conséquences. Mais qu'est-ce qui a plus de valeur que votre statut ou le salut perdu des perdus et le bien-être spirituel de vos frères et sœurs? N'y a-t-il pas meilleur que l'amour emporte sur la liberté à chaque fois? Et bien sûr, qu'est-ce que cela signifie-t-il pour nous? Réfléchissons un instant à nos droits et à la manière dont cette conversation est liée à notre identité personnelle. Comment cette conversation est liée à notre identité personnelle, notre sentiment d'appartenance et notre but. Et je vais argumenter comme ceci. L'accent mis sur les droits personnels dans notre monde, surtout l'engagement de l'individualisme expressif, ça sape en fait notre identité en Christ. Ça sape notre sentiment d'appartenance. Ça sape notre but. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à connaître notre identité en Christ. Voici ce qui est vrai pour chaque disciple et de Jésus à cause de ce que Jésus a déjà accompli. Nous avons ces... C'est basé sur l'Écriture. En Christ, j'ai été créé à l'image de Dieu. Nos vies ont une valeur et une dignité inhérente. C'est l'affirmation fondamentale de tous les droits de l'homme dans la civilisation occidentale. Deux, j'appartiens à Dieu si tu es disciple de Jésus. Je suis le Fils de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Uniquement créé par Dieu avec une personnalité, avec un appel, avec une histoire. Je suis aimé éternellement et accepté de Dieu. Je suis aimé et accepté de Dieu pour l'éternellement. Comme pour toi. Tu peux rien faire pour mériter plus d'amour, plus d'acceptation. Je suis en sécurité en Dieu. Tu es en sécurité en Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis un membre par entière du corps de Christ, comme toi aussi, si tu es en Christ. Nous n'avons pas à lutter pour nous authentifier nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'être des personnes centrées sur nous-mêmes, luttant pour être individuellement libres, essayant sans cesse de nous définir. En fait, si nous pensons toujours à nos droits, nous sommes des âmes appauvries. Et c'est ce qui est si triste. Nous nous voyons et les autres investir beaucoup d'énergie à trouver l'identité et à créer certaines communautés d'appartenance et souvent si fragile communauté en ligne. En Christ, nous avons une solide et sécure identité. Nous avons une ferme sens d'appartenance. Et nous vivons en dessous de ce que Dieu a pour nous. Nous savons qui nous sommes en Christ, savons que nous appartenons à Dieu et son peuple pour toujours. Et ces dons inestimables de Dieu nous libèrent de l'effort de nous définir et nous de défendre nous-mêmes de la lutte pour appartenir. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les gens qui ne comprennent pas leur identité et leur appartenance n'atteignent pas leur but, ne vivent pas pour leur goal. La parole de Dieu nous dit « Ayez Jésus pour seul maître. Suivez le modèle de Christ. Abandonnez vos droits pour le bien-être des autres. Vivez pour le but supérieur auquel Dieu vous a appelé. Quel que soit votre âge. » J'ai entendu l'exemple d'un homme qui avait 86 ans, qui fait partie de notre communauté. Il était en train de parler de la mission encore, dans la mission dans laquelle il participe et la communauté dans laquelle il est, ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment inspirant. Vivez pour le bien-être de votre communauté, votre église, votre école, vos collègues, vos voisins. Partagez l'évangile en parole et en acte. Nous avons tous été chargés de cette intendance. Et cette génération a besoin de cela. Vous savez, notre connaissance, nos droits et nos libertés doivent être dirigés, toujours être dirigés par un souci d'amour pour le bien-être spirituel des dieux, l'amour de Dieu. En sécurité dans notre identité en Christ, en sécurité dans notre sentiment d'appartenance, et si nous sommes libérés pour vivre selon le dessein des dieux, lui apporter la gloire et bénir les autres de son amour, c'est lorsque nous nous tournons vers l'extérieur que nous sommes vraiment libres. Puissions-nous vivre dans notre liberté, dans cette liberté. Ça, c'est un amen très silencieux. Et si quelqu'un voudrait vivre selon nous avons été libérés pour vivre selon le but que Dieu a pour nous. Prions. Père, alors que je prêche, je sais que je peux me concentrer aussi sur moi-même. Trop concentré sur mes propres intérêts, tout ce qui... penser comment j'ai été maltraité en beaucoup de choses. Alors, Seigneur, pardonne-moi pour de me centrer trop sur moi. Aide-nous à comprendre qui tu es, Jésus. La vérité que nous t'appartenons est pour maintenant et pour toujours, et que nous appartenons et que nous puissions vivre pour ton peuple et vivre pour le but que tu as chacun d'entre nous individuellement et pour nous collectivement comme ton peuple. Puissions-nous vivre pour ta gloire et que nous puissions partager la parole de qui tu es à travers des paroles, à travers les actions que nous puissions le faire à la maison, au travail, à l'école, où que tu nous amènes. Utilise-nous pour ta gloire, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, il va y avoir certaines questions sur l'écran, vous pouvez réfléchir. Et puis, nous allons passer pour un temps d'oration, s'il vous plaît. On va avoir un temps de prière quand le groupe de louanges va nous guider. Vous pouvez être en train de penser à propos de vos droits que vous devez abandonner. Vous pouvez penser à vos familles où les gens se battent pour leurs propres droits. Quel environnement dans lequel vous vivez? Puissions-nous prier? Je vais inviter les anciens, les leaders.